Bienvenue sur ce dossier spécial publié en mai 2026 sur le portail ia-info.fr. Pour commencer, imaginons un peu la scène. Un salarié, disons dans une grosse boîte de service, il termine sa visio de routine, il ferme la fenêtre, la caméra s'éteint.
Et jusque-là, tout va bien, quoi.
Voilà, rien d'anormal. Sauf que, quelques heures plus tard, ce salarié y découvre avec stupeur que tout l'échange a été enregistré, retranscrit mot pour mot et surtout analysé par une IA.
Ouais, ça fait froid dans le dos.
Grave. L'algorithme a carrément généré un rapport sur lui. Genre, il a identifié ses doutes, il a évalué son niveau de conviction, il a disséqué tous ses arguments. Et le pire, c'est que personne ne lui a formellement demandé son accord.
Bah non, évidemment. Juste un minuscule bandeau légal en haut de l'écran.
C'est ça. Et je suis certaine que ça résonne chez beaucoup de gens.
Ah, mais ce scénario, c'est plus du tout une dystopie lointaine, hein. C'est la réalité quotidienne de milliers d'entreprises aujourd'hui, celles qui ont intégré ces fameux assistants de réunion virtuels.
Et c'est exactement la mission de notre exploration aujourd'hui. On va essayer de comprendre comment ces outils, qu'on voyait un peu comme des gadgets de productivité super pratiques, se sont transformés en une véritable infrastructure de surveillance, presque silencieuse, quoi.
Absolument. Et pour ça, on va s'appuyer sur l'excellente enquête de Didier Taormina. C'est vraiment la base de notre analyse.
Tout à fait. Et juste, je tiens à préciser d'emblée qu'on n'est pas là pour prendre parti ou taper sur les éditeurs de logiciels. Hein.
Non, pas du tout.
C'est un sujet hypersensible qui touche aux droits du travail, aux libertés individuelles. Donc notre but, c'est vraiment de rester objectif, de regarder les arguments techniques et juridiques de notre source pour comprendre comment ce profilage fonctionne.
Ouais, et pour bien comprendre, il faut repartir du contexte. Pourquoi ces outils ont eu un tel succès ? Bah, les chiffres de l'industrie sont clairs. Les réunions, c'est environ 37% du temps de travail d'un collaborateur moyen.
37%, c'est énorme.
Et la moitié de ces réunions sont jugées complètement inutiles pour les participants eux-mêmes. Donc, face à cette perte de temps astronomique, l'industrie logicielle a débarqué avec une solution magique, avec des outils comme Auteur.ia, Fireflies, MeetGeek ou Sambly.
La promesse était belle, quoi.
Bah oui, la promesse, c'était juste. On génère un compte-rendu automatique, ça libère l'esprit de tout le monde et on liste les actions à faire. Fin de l'histoire.
C'est vrai que l'argumentaire est... il est imparable. Déléguer la corvée de la prise de notes à une machine, tout le monde signe des deux mains. Moi, la première.
Exactement.
Mais parce qu'il y a un mais, l'analyse montre que sous cette apparence de petit assistant super candide, l'architecture même de ces systèmes a discrètement muté. Et l'exemple le plus flagrant dans les sources, c'est Copilot, quand il est intégré à Microsoft Teams.
Ah oui, là on passe dans une autre dimension.
C'est ça. La technologie, ce n'est plus du tout, mais alors plus du tout, de la simple transcription textuelle.
Non, la vraie bascule, c'est qu'on est passé de la simple reconnaissance vocale à une analyse sémantique et comportementale. L'IA ne fait plus juste transformer un son en texte, elle identifie chaque intervenant nominativement.
D'accord, mais ça va plus loin que juste mettre un prénom sur une phrase, non ?
Oh oui. Ensuite, elle utilise des modèles de traitement du langage naturel pour en gros cartographier la structure de conversation. L'algorithme va calculer les convergences d'idées, il compare le champ lexical des uns et des autres.
Waouh !
Il va repérer les désaccords en analysant les interruptions, les petits marqueurs d'opposition et même les variations de ton. L'outil prétend même pouvoir détecter l'état émotionnel de la conversation en croisant le rythme de la parole avec le choix des mots.
Attends, détecter des cas émotionnels, c'est dingue. Et ça nous amène directement à cette fonctionnalité choc qui est mentionnée dans l'enquête. Ce n'est pas une rumeur, hein, c'est littéralement une option officielle suggérée par Microsoft dans sa doc.
Le fameux prompt.
Voilà. Le système propose une invite qui dit « texto, quelles sont les lacunes de l'argumentation de… » Et là, tu mets le nom du participant.
Ouais, c'est vertigineux. Surtout quand on comprend comment ça marche en temps réel. Imagine la scène. Un chef de projet présente une stratégie complexe. Il donne toute son énergie cognitive pour convaincre la salle.
Ouais, il est à fond dans son truc.
Et pendant ce temps, un autre participant, discrètement, ouvre un petit panneau latéral sur son écran et clique sur cette fameuse suggestion. L'algorithme, qui a tout l'historique dans sa mémoire tampon, va utiliser sa puissance de calcul pour trouver les contradictions, les omissions, les faiblesses rhétoriques du gars qui parle.
Et il te pond des contre-arguments instantanés.
En direct, ouais.
En fait, c'est comme si, imagine, tu penses inviter un simple sténographe à ta réunion pour prendre des notes.
Ouais, le truc inoffensif.
Et à la fin, tu découvres que ce sténographe, c'était en réalité un profileur psychologique chargé de trouver tes faiblesses pour les donner aux autres.
C'est une super analogie. Et c'est exactement ce que l'auteur de l'enquête appelle une asymétrie invisible.
C'est-à-dire ?
Bah, dans une interaction humaine normale, tout le monde a le même niveau d'information dans la pièce. Mais là, la requête faite à l'IA, elle est totalement privée. Seul celui qui clique voit la réponse. L'orateur, lui, il ignore complètement qu'un algorithme est en train de disséquer sa pensée à la volée.
C'est fou. Les éditeurs vendent ça comme un avantage concurrentiel, genre peaufiner votre stratégie sans interrompre la réunion. Mais sociologiquement, ça crée un déséquilibre énorme.
Un déséquilibre structurel, ouais. Mais pour que la machine puisse faire ce tour de force, séparer les voix, attribuer une hésitation à la bonne personne, surtout quand tout le monde parle en même temps, il lui faut des données d'une précision redoutable.
On n'est plus du tout sur un simple fichier audio MP3, là.
Ah non, pas du tout. On rentre dans ce que l'industrie appelle la reconnaissance du locuteur. Pour isoler une voix, le système ne regarde pas juste le volume. Il extrait des variables biomécaniques.
Des variables biomécaniques, genre quoi ?
Genre la fréquence fondamentale de la voix, la résonance du conduit vocal de la personne, son rythme de respiration entre les mots. Et toutes ces mesures physiques, elles sont converties en un modèle mathématique unique.
Une empreinte vocale, en fait.
Exactement. C'est l'équivalent numérique parfait d'une empreinte digitale.
D'accord. Mais je t'arrête sur ce point précis. Parce que bon, dans ces applications, quand la visio démarre, il y a toujours un gros bandeau rouge ou une petite voix qui dit « enregistrement en cours ». Donc techniquement, on est prévenu. On est dans une démarche consensuelle, non ?
Eh bien, c'est là tout le problème. L'analyse démonte complètement cet argument. C'est ce qu'elle appelle la fausse transparence.
Pourquoi fausse ?
Parce que le droit européen, et plus particulièrement le RGPD, dans son article 9, fait une distinction majeure entre simplement enregistrer une voix et créer un modèle biométrique.
Ah, je vois. L'empreinte vocale, c'est biométrique.
Exactement. Et comme ça permet d'identifier physiquement quelqu'un de façon irrévocable, c'est classé comme une donnée biométrique extrêmement sensible. Donc, ça exige un consentement explicite, granulaire et surtout éclairé.
Donc, le petit bandeau furtif en haut d'écran, ça ne vaut rien juridiquement.
Rien du tout. Ce bandeau, il ne dit pas à l'employé « Hey, au fait, ta signature vocale va être modélisée, stockée, et tes émotions vont être évaluées par un algorithme. » En plus, dans la vraie vie des entreprises, ces assistants sont souvent activés par défaut par les admins IT.
C'est clair. Tu rejoins la réunion, tu n'as même pas le choix de refuser si tu veux participer à la discussion. Et en France, on a le Code du travail, l'article L.1222-4, qui est hyper strict là-dessus.
Ouais, qu'est-ce qu'il dit exactement ?
Il stipule clairement qu'aucun dispositif de surveillance ne peut être utilisé sans avoir été porté préalablement à la connaissance des salariés de manière exhaustive. Donc il y a un gouffre entre le bouton cliqué par le service informatique et la vraie conformité légale.
Un gouffre immense. Et ça nous amène à un autre problème mécanique. Parce que pour traiter toutes ces empreintes biométriques et analyser le langage en temps réel, il faut une puissance de calcul phénoménale.
Ce n'est pas le petit ordinateur portable du salarié qui fait ça.
Ah ben non, ça demande des grappes de serveurs ultra puissants. Et cette nécessité technique, eh ben, elle dicte la géographie des données.
Où partent ces données, en fait ? Parce que toutes ces hésitations, ces empreintes vocales, elles transitent bien quelque part. Et c'est là qu'on touche au problème critique de la souveraineté.
Exactement. L'immense majorité de cette infrastructure, elle appartient à l'écosystème cloud américain. Or, toute donnée gérée par une entreprise américaine est soumise au fameux Cloud Act de 2018.
Ah, le Cloud Act. Ce truc est terrible.
Ouais, ça donne aux agences fédérales américaines une portée extraterritoriale. En gros, elles peuvent forcer un fournisseur de cloud à leur livrer les données, même si les serveurs sont physiquement en Europe, sans passer par la justice internationale classique.
Mais pourtant, on entend souvent parler de trucs censés nous protéger, non ? L'industrie met en avant la fameuse frontière de données européenne, le EU Data Boundary, pour garantir que ça ne traverse pas l'Atlantique. C'est vendu comme un coffre-fort.
C'est vendu comme tel, oui. Mais la documentation technique montre que c'est beaucoup plus poreux que ça. Déjà, c'est souvent une option que les clients oublient d'activer. Mais surtout, le problème est matériel.
Comment ça, matériel ?
L'IA demande une bande passante énorme. Si les serveurs en Europe saturent pendant un pic de réunion, l'architecture cloud va automatiquement répartir la charge pour éviter que ça plante. Et là, tes données peuvent transiter vers des serveurs américains disposant de la puissance nécessaire.
Donc en gros, c'est comme si j'avais un coffre-fort ultra sécurisé en Europe, mais le fabricant américain garde un double de la clé. Et en plus, il déplace mes documents dans un autre pays si mes tiroirs sont trop pleins.
C'est exactement ça. Et l'enquête cite d'ailleurs un événement institutionnel assez accablant sur le sujet.
Oui, l'audition de juin 2025.
C'est ça, la direction juridique de Microsoft France devant une commission d'enquête sénatoriale. Sous serment, ils ont admis qu'ils ne pourraient pas nécessairement s'opposer à une injonction américaine réclamant l'accès à des données européennes.
C'est un aveu énorme quand même, hein ?
Totalement. Mais bon, au-delà de la géopolitique, il faut voir ce que l'entreprise elle-même fait de ces données. Parce qu'elles ne restent pas inactives sur un serveur, elles sont condensées et envoyées au manager sous forme de tableau de bord.
Oui, et c'est là qu'on arrive à l'impact humain quotidien. Une fois la visio terminée, la surveillance continue. L'outil génère ce que la source appelle une timeline des intervenants.
Ouais, fini le simple compte-rendu.
Fini, ouais. C'est un rapport automatisé qui dit qui a parlé, pendant combien de temps à la seconde près, et surtout, l'humeur diagnostiquée par l'algorithme. Le truc se permet de te classer comme aligné, réfractaire ou manquant d'engagement.
Et c'est ça qui déclenche un mécanisme sociologique redoutable. L'expert cite la théorie de Jeremy Bentham, tu sais, de la fin du XVIIIe siècle. L'effet panoptique.
Ah oui, l'architecture de la prison.
Tout autour. Le truc, comme l'a analysé Michel Foucault plus tard, c'est que la tour est opaque. Les détenus ne savent jamais s'ils sont observés à l'instant T, mais ils savent qu'ils peuvent l'être à tout moment.
Et la conséquence, c'est qu'on n'a même plus besoin de contraintes physiques. L'individu intériorise la surveillance. Il va modifier son propre comportement juste au cas où l'œil de la tour serait braqué sur lui.
Exactement. Et ça s'applique trait pour trait à la salle de réunion virtuelle aujourd'hui. Que ton manager lise ou non le rapport émotionnel le vendredi soir, peu importe. Le simple fait de savoir que l'IA t'écoute et jauge ton engagement, ça suffit à discipliner tout le monde.
Et concrètement, sur le terrain, ça crée une autocensure massive, ça tue littéralement un truc fondamental au travail, le droit à l'hésitation.
Ah bah oui, totalement.
Dans un projet, c'est sain de douter, de dire « je ne suis pas sûr qu'on aille dans la bonne direction ». Mais si tu sais que l'IA va analyser froidement ça comme un manque de conviction et que ça va finir dans ton évaluation annuelle, tu ne prends plus de risques.
Les réunions deviennent de simples pièces de théâtre, quoi.
C'est ça. On ne cherche plus à résoudre un problème, on cherche à donner à l'algorithme les signaux positifs qu'il veut entendre.
Et ce lissage des comportements, ça appauvrit complètement l'intelligence collective. D'ailleurs, le législateur européen l'a bien vu. Le fameux AI Act, le grand règlement européen, classe explicitement ces outils de surveillance des travailleurs dans la catégorie à haut risque.
À haut risque, carrément.
Ce qui imposerait théoriquement des barrières énormes. Supervision humaine, doc technique stricte et des analyses d'impact avant tout déploiement.
Sauf que le décalage avec la réalité, il est abyssal. Aujourd'hui, le service informatique active ça en 3 clics pour des milliers de personnes, sans aucune analyse préalable des droits fondamentaux.
C'est l'histoire qui se répète. En 2018, avec le RGPD, beaucoup de boîtes ont fait la politique de l'autruche. Elles ont continué leurs pratiques illégales en pariant sur la lenteur des sanctions, plutôt que se mettre en conformité.
La stratégie du fait accompli, ouais.
Et là, avec l'AI Act, c'est pareil. On déploie l'outil pour la productivité immédiate et on verra la légalité plus tard. Sauf que cette fois, l'historique émotionnel et biométrique capturé, c'est un passif qu'on ne pourra pas effacer d'un clic.
C'est effrayant quand on y pense. Et cette trajectoire, ça nous mène à une vraie réflexion de fond, assez provocatrice, mais tellement logique au final. Historiquement, la salle de réunion, c'était le lieu du débat, de la confrontation d'idées.
Ouais, l'endroit où on prend les décisions.
Mais si cet espace devient un environnement ultra surveillé, où chaque variation de ta voix est mesurée, où ton moindre argument est disséqué en secret, eh bien les vraies décisions vont simplement déserter ces réunions.
Ils vont se prendre ailleurs.
C'est ça. On va assister au grand retour des discussions secrètes. Tout va se jouer à huis clos, loin des ordis, dans les couloirs ou à la machine à café, là où aucune IA ne peut capter ton empreinte vocale.
Le paradoxe total. En voulant tout quantifier pour être plus transparent et efficace, ces outils pourraient rendre la culture d'entreprise 100 fois plus opaque et paranoïaque qu'avant.
Exactement.
C'est vraiment la limite de vouloir rationaliser le comportement humain par la tech, quoi. À force de contraindre la réflexion par l'algorithme, on repousse juste l'authenticité dans les angles morts de la surveillance.
C'est joliment dit. Et c'est justement sur cette observation qu'on va clôturer notre analyse de ce phénomène qui, franchement, ne fait que commencer. Merci à tous de nous avoir suivis et retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.